Et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui revient sur les grands salons de la tech, ce qu'il ne fallait pas en rater, les tendances qui s'en dégagent. Et cet épisode spécial VivaTech promet d'être plein de rebondissements avec naturellement le tour d'horizon de ce salon. Bonjour Lionel.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et donc c'est parti, c'est cette huitième édition de VivaTech qui s'est achevée il y a tout juste une semaine. Alors on est vendredi, on enregistre avec une semaine finalement après la fermeture de ce salon. Alors elle a fermé samedi, mais nous on fait assez peu les journées du samedi. Et puis l'idée c'est de revenir avec Lionel et peut-être un invité surprise qui se joindra à nous dans quelques moments, dans quelques minutes, sur cette édition spéciale VivaTech. Qu'en as-tu retenu, Lionel, de cette édition de VivaTech 2024 ?
Eh ben moi, j'ai trouvé qu'à 82 ans, Maurice Lévy était en forme.
Voilà. c'est vrai, il assure encore sur scène, c'était absolument, non, c'est vrai qu'on a été quand même gavé, alors deux conférences, faut dire ce qui est, deux startups, alors, en même temps il y a plusieurs échos, il y a ceux qui disent oui mais bon, pas mal, et puis il y a ceux qui un peu comme nous étaient complètement électrisés, parce que quand t'as bien préparé, généralement, tu découvres quelques pépites. J'ai quand même noté qu'on était sur un retour, je ne sais pas si tu partages cet avis, mais en tout cas sur un retour un peu plus à la science, un peu plus à l'ingénierie, un peu plus au cœur de la technologie, non pas pour faire pouet-pouette, mais d'une technologie dont on essaye de tirer profit pour des fonctionnalités fortes, en tout cas de la valeur à dégager pour optimiser sa productivité, l'efficience opérationnelle des boîtes, on en parle souvent. Bref, quelque chose d'un peu plus en profondeur.
Oui, quelque chose qui est plus vers une notion opérationnelle. Il faut dire quand même que cette année, il y avait cette IA générative qui était omniprésente, même la communication de VivaTech parlait de plus de 40% des exposants qui ne parlaient que de solutions intégrantes de l'intelligence artificielle, et forcément, cette intégration allait au service de la tâche ou de la cause que défend l'innovation en question. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être aussi cette sensation-là. Et puis, le problème de VivaTech, c'est toujours le même, c'est que les pauvres start-upers, ils ont un petit espace tellement réduit qu'ils doivent être vraiment très, très, très convaincants et très, très forts pour pouvoir faire passer leur message. Et donc, quand un d'entre eux, eh bien, beaucoup nous ont bien sûr attiré l'œil, capte ton attention, eh bien, tu te dis, finalement, lui, il a quand même beaucoup de choses à dire, donc il vient pas juste là pour faire de la figuration. C'est peut-être ça aussi, hein. Je dis pas que ce que tu dis est faux, je dis, c'est peut-être ça aussi qui donne ce sentiment de foultitude et de sérieux opérationnel.
Mais effectivement, alors par contre un truc qui était à noter, c'est que d'ailleurs on m'a fait la réflexion plusieurs fois, on dit mais cette année on parle pas de durabilité, pas d'enjeux climatiques, est-ce que tu es d'accord là-dessus? Je te donnerai mon avis après.
Non, pas du tout, en fait cette année, pour moi, il y avait des grandes lignes directrices, alors forcément l'intelligence artificielle était là, je viens de le dire, ils ont eu le côté, mais on en a déjà parlé dans notre épisode pré-VivaTech, ils ont eu l'intelligence d'organiser ce qu'ils ont appelé l'Impact Bridge, avec beaucoup, beaucoup de solutions qui étaient orientées énergie verte, durabilité, économie d'énergie, contrôle de la carbonisation, etc. Et puis, il y a un troisième point et dernier point, c'est que c'est devenu un mini-salon de l'auto. Ça, c'était une nouveauté. L'année dernière, on avait la nouvelle Renault 5 qui fait figure de vedette à Roland-Garros en ce moment, mais on avait aussi Software République qui présentait l'année dernière un véhicule. Mais c'était à peu près tout. Mais cette année, il y avait Peugeot, il y avait Tesla, il y avait XPeng, il y avait BYD, et puis évidemment, il y avait Software République. Donc, d'un seul coup, on se dit, mais entre l'IA d'un côté, entre l'énergie de l'autre et les économies d'énergie, entre la voiture, mais finalement, sur quel pied dansons-nous? Voilà, peut-être que l'on se rapproche encore un peu plus du CES.
Et c'est vrai. Alors, tu vois, on n'a pas la même perception, parce que ce qui est marrant, c'est que pour moi, tu m'aurais dit, est-ce que Vivatech est le salon incontournable de l'auto ? Je dirais, là, à date, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Alors, c'est vrai qu'il y avait plus de constructeurs qu'il pouvait y avoir les années précédentes. Tesla était là. Enfin, est-ce qu'on peut considérer que Tesla était là ? Je ne suis pas sûr, parce qu'ils étaient là, mais sans être là, enfin, il y a un robot qui, globalement, ne bougeait pas. Et puis, le Tesla Truck, dont on se demande bien encore une fois si ce n'est pas... quelque chose qu'on va vraiment utiliser au quotidien. Enfin, tu vois, on peut vraiment, là, je pense qu'il y avait là-dessus encore quelque chose encore à construire. En tout cas, la mobilité était présente. Effectivement, mais j'ai moins perçu cette domination de la voiture par rapport à la prédominance, en tout cas dans les médias notamment, de l'intelligence artificielle. Alors, ça fait des années qu'on nous dit que c'est l'année de l'intelligence artificielle. On en est tous très heureux. Cette année, c'était un petit peu moins, un petit peu plus clair, en tout cas, j'ai trouvé. Mais bon, c'est vrai que mobilité, durabilité, moi, j'ai trouvé qu'il y en avait en fait. Partout. Je te prends un exemple, parce que j'ai quand même pris quelques notes. Tu prends des sociétés dont on parlera d'ailleurs peut-être tout à l'heure. Biomemory, stockage d'informations dans l'ADN. On est clairement sur la diminution du nombre de mètres carrés des serveurs. Lactips, qui est un sujet, d'ailleurs les deux sont au CNRS, sur les nouveaux matériaux thermoplastiques à base de caséine, qui vont permettre finalement de rendre totalement les plastiques à usage unique dégradables et solubles dans l'eau. Tu prends EF Polymère qui était au Japon, qui était sur les sujets notamment de biomasse, enfin l'utilisation pas de biomasse mais d'un polymère pardon, qu'on va répartir sur le sol qui va permettre de garder et d'absorber la pluie et donc de préserver la capacité de l'eau à être utile pour les sols. Switch sur l'osmonique, enfin je veux dire il y avait quand même pléthore de solutions, donc c'était peut-être pas mainstream en termes de visibilité des sujets, mais en fait il y avait des solutions et plutôt deep tech orientées sur la plupart des sujets relatifs à la durabilité. Donc ça c'est quelque chose effectivement que j'avais noté. En même temps, le CES et Vivatech sont deux salons qui sont quand même assez différents. Est-ce qu'on est finalement presque aujourd'hui à une maturité, ce que disait Bruno Guglielminetti quand il a échangé, d'ailleurs il a sur son débrief avec Jérôme Colombin, il disait que lui, pour lui, on était à un niveau de maturité intéressant de Vivatech.
Alors, on est à un niveau de maturité dans le concept, voire même on a dépassé justement le concept. Peut-être que la maturité, c'était l'année dernière. Là, on est encore un peu plus loin parce que justement, le concept, c'était quand même un groupe qui s'appelle Total dans l'énergie ou Engie, ou qui s'appelle La Poste, ou qui s'appelle la BNP dans la banque et la distribution. Ils accueillent des innovations qui sont propres à leur secteur d'activité. C'est le concept de Vivatech et je trouve ça plutôt intéressant, très étonnant et très différent de tous les autres salons que l'on peut parcourir, qui proposent et qui proposent surtout de l'innovation, ou entre autres de l'innovation, parce que l'IFA de Berlin propose entre autres de l'innovation et pas forcément que ça. Mais là, c'était l'originalité de Vivatech et que ce que l'on voit apparaître déjà depuis un ou deux ans, mais encore un peu plus aujourd'hui, des stands, encore une fois, tu as parlé du stand Tesla, mais on peut parler du stand Tesla, on peut parler du stand, encore une fois, BYD, des stands, ou même peut-être du stand Airbus, qui sont des stands où uniquement la marque, l'entreprise se met en scène, et ça d'un seul coup, c'est pour ça que je dis, c'est peut-être maintenant, alors qu'il n'y a que 55 000 mètres carrés pour le pauvre Vivatech, alors qu'il y en a 250 000 au CES, c'est-à-dire 5 fois plus. Peut-être que l'on est en train de dépasser ce stade de maturité qui était la maturité première. Et on se lance vers une seconde maturité. Mais ça veut dire que demain, c'est plus le hall 1 qu'il faut réserver et puis le petit hall 2 qui est à côté, mais il faut réserver beaucoup plus de halls parce que ça veut dire accueillir des marques qui vont, elles, montrer de façon beaucoup plus grandiloquente leurs innovations et continuer peut-être à garder aussi cet esprit start-up. Mais qu'est-ce que l'on disait l'année dernière ? On disait, mais Vivatech, c'est le Recaparc puissance 10, puisqu'il y a beaucoup plus de startups qui exposent sur beaucoup, beaucoup moins de surface pour chacune d'elles. Et thématiquement réglées, puisqu'elles sont généralement, quand on est chez LVMH, on est plutôt chez des startups qui travaillent sur des innovations qui sont autour du retail du luxe. Donc on voit bien que peut-être, enfin voilà, moi je dis si je croise le fer avec Bruno, eh bien je lui dirais peut-être que la maturité c'était l'année dernière et que là maintenant c'est déjà le début de la post-maturité.
Ah bah, c'est, d'ailleurs, quand tu discutes avec les gens, donc qu'il y a un peu d'acné qui va arriver. Donc, en fait, donc ce qui est intéressant, c'est que quand tu discutes avec les gens qui étaient sur le stand, notamment d'Airbus, hein, ils disaient que la marque était présente dans un vrai sujet, a priori, d'employabilité. Donc, c'était côté corporate, côté branding, et puis le fait de recruter. Donc, il y avait aussi cet enjeu, parce que beaucoup de stands hein, travaillent notamment au recrutement aussi des talents à venir, et pas que sur la partie du samedi, hein, vraiment tout au long de la semaine, avec de multiples ingénieurs qui viennent aussi, qui candidatent, des chercheurs qui sont là. Et donc, on voit qu'il y a quand même un vivier professionnel assez intéressant. Eux, ils communiquent hein, d'ailleurs sur 13 500 startups. Mais quand on regarde celles qui viennent qu'un après-midi, celles qui viennent qu'une demi-journée ou celles qui viennent une journée ou deux et des fois trois ou quatre, bah par défaut, ça fait vite 13 500 réduit à un pylône sur un mètre carré ou deux et puis tu as trois ou quatre startups. C'est vrai que c'est extrêmement dense. Ce qui fait que si on associe la préparation de Vivatech à celle du CES, il faut presque autant de préparation pour faire que Vivatech soit utile qu'un CES finalement, qui a l'avantage quand même souvent d'embarquer des startups ou des exposants qui sont là pendant 4 jours d'affilée. C'est quand même souvent beaucoup plus pratique.
Oui, et puis encore une fois, l'histoire des chiffres, tout le monde en parle, tous les journalistes en ont parlé, ils nous font simplement sourire. Hein, on a parcouru un certain nombre de fois les allées du CES à Las Vegas. Les derniers chiffres qui ont été officialisés par eux sur l'édition 2024, c'était 135 ou 140 000 visiteurs. Là, on nous en annonce 165 000. D'après moi, ils ont mis des compteurs aux portes des toilettes. Et à chaque fois que quelqu'un allait aux toilettes, ça comptait un visiteur de plus. C'est pas possible.
Ah bah voilà. Et bah pour en parler, il nous rejoint, on le félicite. Bruno Guglielminetti, moncarnet.com, qu'on a entendu en débrief, tu as les oreilles qui ont sifflé il y a un instant, donc c'est très bien, juste, on va pouvoir revenir dessus. Sur l'année Bonjour, de la monsieur. Maturité, quand on a entendu ce que tu avais, tes échanges avec Jérôme Colombin dans le débrief que tu avais en direct d'ailleurs de Vivatech, et cette année de la maturité, qu'est-ce que toi de ton côté, acteur nord-américain de la tech, analyste de beaucoup de salons également, tu tires de cette visite, Bruno Guglielminetti?
D'abord, merci, messieurs, de m'accueillir chez vous. Ce que je trouve, c'est, je reviens avec le mot, hein, je pense qu'on sent, je pensais à mes collègues François Sorel et Jérôme Colombin, ils le disaient, moi je le couvrais à distance, le Vivatech, parce que c'est drôle, mais je trouvais qu'il était... Par le passé, pas aujourd'hui, là, mais par le passé, je ne le sentais pas bien. Je ne sentais pas qu'il avait trouvé son positionnement à l'échelle européenne ou même mondiale. Tandis que cette année, je n'ai pas été déçu parce que j'espérais un rendez-vous européen et c'est ce que j'ai eu. Et je vous dirais que pour les gens qui ont déjà vu les deux, c'est votre cas, c'est presque un CES, mais en condensé. Mais ça ressemble énormément à ces grands rendez-vous que moi, j'ai commencé à couvrir en 1996.
Te fais pas trop mal, Bruno.
mais c'est ça, mais ça fait 28 ans là, que je couvre ce type d'événement-là. Ça fait 30 ans que je parle de techno. Mais là, vous avez vraiment quelque chose. Et je pense que les organisateurs peuvent être fiers, autant au niveau des conférences qui sont plus ouvertes sur la planète, et puis autant au niveau des exposants. Il n'y a pas un endroit où je pouvais voir auparavant l'Afrique être aussi présent. Et là, je pense à l'Afrique subsaharienne, mais aussi l'Afrique du Nord. Ils étaient tous là. Je m'excuse, mais chapeau, parce que nulle part ailleurs, évidemment, à moins de se rendre sur le continent, on va les voir présents. Et ça, je trouve ça très habile des gens de Vivatech d'avoir fait une place comme ça. Puis après, vous avez tous les grands joueurs qui sont là. Et pour un Nord-Américain, c'est intéressant. Et je faisais remarquer ça sur BFM Business dans une entrevue, c'est qu'on se rend compte que les grands géants américains, là, pensez à Meta, Microsoft, AWS et compagnie, ils tiennent pas le même discours, ils n'ont pas la même approche quand ils sont chez vous en Europe que quand ils sont chez eux ou ailleurs dans le monde. Je pense que M. Thierry Breton leur fait peur. Et donc, ils sont très polis, ils marchent sur des œufs. Moi, c'est amusant parce que je parlais en français, mais même si j'ai un accent pour les Français, ils ne savaient pas d'où j'étais. Alors, ils étaient très délicats, puis je les voyais opérer avec d'autres gens qui étaient autour, et je les sentais vraiment là. Ils voulaient savoir qui on était avant de parler, et je sens qu'ils ont, sur le continent européen, ils ont énormément de pression. Alors, ça donne une représentation de ces entreprises-là drôlement différente que quand on les retrouve aux États-Unis ou au Canada, où là, ils sont sur leur territoire, c'est eux qui mènent
la danse. Nous, tu rentres, ça peut taper. Hein. C'est notre gourou à tous, Thierry Breton, peut arbitrer à tout moment.
Mais en même temps, c'est très fort.
C'est, ouais. Effectivement, tu le soulignes, c'est excessivement dense. Moi, ce que j'adore aussi dans ce salon, c'est qu'il n'y a pas un mètre carré qui n'est pas exploité. T'as un mètre carré, t'as une start-up. Donc, ce qui fait qu'effectivement, quand même nous, cette année, on peut dire sur le marquage, on a quand même un peu galéré à trouver la plupart des start-up, parce qu'on peut dire que le marquage était aussi bien qu'on aurait le souhaité par rapport aux autres années. Mais quand on voit la densité des start-up qu'on peut rencontrer, ce qui nous manque la plupart du temps, c'est du temps. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est...
Puis ce que je trouve habile, si tu me permets Mathieu, vas-y. C'est que contrairement à un gros show comme le CES de Las Vegas, où on fait carrément une section où il y a les startups, je pense à Eureka Park, là, ils sont pêle-mêle à travers les grands exposants, ce qui leur offre une encore plus grande visibilité. Et c'est ça que je trouve habile. Parce que, tu sais, les gens qui vont au CES, s'ils ne vont pas à Eureka Park, ils n'en verront pas de startup. Exactement. Et moi, je connais des gens qui ont réussi à ne pas y aller, alors que maintenant, ça devient l'endroit où on commence notre visite. C'est...
D'ailleurs,
mais il y a des gens qui n'y vont pas à Eureka Park. Et là, ben, dans le contexte de Vivatech, ben, on est sûr qu'une startup qui investit ou qui trouve un partenariat avec quelqu'un pour être présent, elle va se faire voir.
Exactement. Et en même temps, ce que disait, tu sais, quand on remet à jour, cette année, j'étais tombé sur un article, quand on a remis à jour le guide de survie du CES de Las Vegas, sur un article du New York Times, si je ne me trompe pas, qui disait que finalement, l'Eureka Park était certainement le salut du CES, parce que c'était par cet espace dédié à ces nouveaux acteurs que depuis les années 2012, si je ne me trompe pas, il y avait vraiment... Ils étaient 80, même pas, ils étaient une quarantaine au départ, enfin, c'était tout petit, ça n'a cessé de grandir pour devenir ce que ça. C'est d'ailleurs l'Eureka Park qu'on aimerait avoir au CES de Las Vegas, mais Dieu sait que nous n'irions pas autre part qu'à l'Eureka Park s'il y avait ça à Vegas, c'est un peu notre sujet. Ben c'est vrai que quand on compare le CES aux autres salons, il est quand même bien positionné par rapport dans la ligne rédactionnelle qui pourrait peut-être s'intensifier au-delà des catégories, mais dans le fonctionnement entre un peu de slush de Helsinki, que Lionel, par ailleurs, tu parcours habilement dans le grand froid nordique, et puis en même temps un peu de slush sur les conférences, et un peu de CES dans l'effet waouh et diversité des sujets qui sont traités. Et pile poil positionné en milieu d'année, bah, ça donne quelque part un événement qui est devenu aujourd'hui incontournable. Je ne sais pas si vous partagez cet avis.
Oui, ah, tout à fait.
Moi, j'ai dit tout à l'heure, avant que tu nous rejoignes, Bruno, j'ai dit que c'était l'édition de la post-modernité. Parce que pour moi, ils ont été un petit peu plus loin que la post-maturité. Ils ont été un petit peu plus loin que la maturité parce que, ce que l'on ne voyait pas les années précédentes ou très, très, très marginalement, c'était des stands complètement dédiés à une marque, et j'en citerai qu'une, c'est BYD. Là, on n'accueille pas de start-up, on vient vous montrer une voiture hybride qui est capable de faire 2000 km. Voilà. Sans faire le plein.
Les fratelles, les 2000, c'est toujours la
même chose. Peut-être que les Chinois, tu sais, ils le font avec... Nous, on a le WNTP, pour, et puis eux, ils ont un autre critère, hein, le CTLC, je ne sais pas quoi, voilà. comme norme de
On a d'autonomie. Aussi l'effet Coué, aussi, chez nous. Ça marche
bien. En tout cas, voilà. Et peut-être que là, on se dit, qu'est-ce qui manque à Vivatech pour être un petit peu de slush, un petit peu de South by Southwest et un peu plus de CES, eh bien, il manque un peu plus d'espace où certaines marques ne feront qu'exposer leurs nouveautés ou leurs grandes innovations mises à l'échelle. Voilà. Ouais.
Mais ça, c'est un truc qui est remarquable, hein, c'est que Vivatech, mis à part quelques rares exceptions, il n'y a pas vraiment de nouveautés. Moi, je me promenais, je voyais des choses qui étaient présentées, mais les choses avaient été déjà annoncées. Tu sais, c'est pas comparable à ce qu'on voit en Allemagne en septembre ou à Barcelone, ben, dans le monde de la mobilité. Ben, évidemment, on revient toujours au CES. Là, Vivatex, c'est comme un moment pour prendre contact avec des gens. Meilleur exemple, OpenAI. OpenAI était présent. Et d'ailleurs, je trouvais ça intéressant parce que depuis toute leur dernière annonce, ils étaient nulle part, à part leur grand patron, là, Sam Altman, mais ils étaient nulle part. Tandis qu'à Vivatex, ben, on avait l'occasion de pouvoir aller les rencontrer et jaser, et même voir le 4O fonctionner là, sur un mobile. Donc ce n'est pas rien. Mais de Vivatex, je ne m'attends pas, puis je n'ai pas été déçu dans ce sens-là, à avoir des nouveautés, des premières. Et tant mieux. Je trouve ça très intéressant de leur part de justement d'éviter ce côté-là. Donc, on ne peut pas être déçu quand on va là maintenant. Et c'est l'occasion de faire de la tech humaine.
Ah, mais tiens, c'était la bonne transition. Tous ces sujets, enfin tous ces salons dans lesquels on parle de techno, d'IA, de réalité augmentée, d'univers immersif, de multiverse, de métaverse, bon bref, de tous les mots-clés qu'on pourrait avoir dans la tech et tous les buzzwords qu'on peut mettre dans une valise et envoyer ailleurs, on y parle quand même beaucoup d'humains. C'est la rencontre entre des humains qui parlent de technologie et de son impact sur... on aime bien, bien sûr, avec la société, les êtres humains, les entreprises, qui démontrent que Vivatex est intéressant. C'est vrai que sur tous les stands, la plupart des exposants, en tout cas, il n'y avait pas forcément d'annonce. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand tu fais du deep dive dans les startups qui sont présentes, tu as des fois des choses très en rupture. Pas forcément nouvelles non plus. Hein. Tu prends Biomemory, dont on a parlé tout à l'heure. C'est une entreprise qui n'est pas forcément nouvelle. J'avais noté, je crois que c'est 2022, je crois, ou leur création. Ça fait, il y a l'Active, ça fait quelques années également. Steerlight, qu'on a vu au CEA, c'est 2022. Donc, il y en a qui ne sont pas forcément nouvelles, il y en a même qui sont un peu plus vieilles, mais elles arrivent encore avec des roadmaps technologiques et leurs nouveautés qui sont assez intéressantes. Ce qui fait l'habile transition avec cette troisième partie, quelles sont les grandes startups qui vous ont plu. Alors, trois chacun maximum. Et là, il y en a des sympas et des mignons. Je vois là Bruno qui se dit « Ouh, c'était pas prévu comme question !» Mais enfin, analyste, je pense que... Alors, allez, Lionel, on se lance. Ensuite, j'en ai deux, trois. Moi, pour moi, c'était vraiment deep tech, donc j'ai vraiment eu de quoi me nourrir sur tous ceux qui font des choses en rupture, des technologies que l'on ne voit pas, invisibles, transparentes, et pourtant au cœur de tout. Mais bon, primeur à Lionel, allez.
Alors, je me lance et c'est moi qui cite la première. Moi, celle qui m'a vraiment plu, parce qu'on parle d'énergie, on parle d'électrification des usages, et pour l'électrification des usages, encore faut-il que l'on soit capable de produire l'électricité et de la produire au plus près des utilisateurs. Alors, comme diraient certains, c'est sûr que si vous consommez essentiellement de l'électricité avec vos climatiseurs, vous mettez un panneau solaire, quand il fait chaud, il y a du soleil, le soleil donne l'électricité, ça fait fonctionner le climatiseur. Tout va bien. Par contre, nous, en France, on consomme plutôt l'électricité, ou les industriels consomment plutôt l'électricité, bah, quand il n'y a pas forcément de soleil, pas forcément de vent, et parfois même la nuit, parce qu'en hiver, on a quand même pas mal de nuit. Et donc, je me suis arrêté sur un stand, c'est le stand de Naarea, c'était sur le stand de la région Île-de-France, et il nous propose, c'est en cours de développement, évidemment, hein, il nous propose un XMR, un small modular reactor, mais very small, extra small modular reactor, qui est à base de neutrons rapides et de sel fondu, qui justement est en capacité de recycler le combustible usagé, qui ne produit pas énormément d'électricité, puisqu'il va produire de l'électricité pour une usine, pour une unité de production. Et cette unité de production, croyez-le bien, c'est pas les hauts fourneaux qu'il y a à Fos-sur-Mer ou autre. Hein. Non, non, c'est une unité de production industrielle et ça se compte en quelques dizaines de kilowatts, mais c'est assez pertinent parce que là, ça n'a pas besoin d'être au bord d'un fleuve avec de l'eau pour refroidir le réacteur. C'est beaucoup plus compact. Et pour vous donner la taille du projet, ça tient en fait la taille d'un conteneur que vous voyez sur les porte-conteneurs qui sont les champions de la mondialisation. Et donc, j'ai trouvé que c'était extrêmement sympa. Micro-générateur, micro-réacteur, XMR, comme ils disent, c'est la société Naarea. Il prévoit, si tout se passe bien au niveau des différentes autorités, parce que la technologie est connue, il suffit maintenant de la développer et de la miniaturiser. Et visiblement, c'est ce qui est proposé, ce qui était proposé. Ils prévoient que leur premier prototype opérationnel serait à l'horizon de 5 à 6 ans. Voilà. Donc horizon 2030.
Bien, ça fait une roadmap intéressante à suivre. Je poursuis. Et alors, moi, il y en a tellement. Il faut que j'en choisisse une. Moi, celle que j'ai adorée, mais j'ai adoré parce que c'est la première startup que j'ai rencontrée sur Viva depuis quasi sa création, qui arrive en me disant voilà où j'en suis et voilà la roadmap où je vais. Et donc, les gars, ils avaient la roadmap techno. Ils sont au CNRS, ça vous aura pas douté. J'en parle souvent. D'ailleurs, j'en parlerai demain. Je fais un bref branding sur demain, tout sur Tech & Co Business demain après-midi. J'aurai le plaisir de partager le plateau avec Frédéric Simontel pour parler justement de VivaTech. Et en tout cas, biomémorie, voilà, le stockage de données dans l'ADN synthétique est quelque chose qui est très intéressant, notamment parce que biomémorie dans sa roadmap pour l'instant ne peut échanger dans ce système de stockage que quelques kilo-octets, donc c'est vraiment tout petit, mais ils ont déjà craqué quelques verrous scientifiques, et à terme ils souhaitent, dans un espace plus petit ou aussi petit qu'une puce de carte bleue, stocker jusqu'à 1 pecta-octet de données. Et ce qui est intéressant, parce que la première question que j'aurais posée, mais pourquoi est-ce qu'on ne stocke pas dans l'ADN humain ? Ce serait plus simple que nous soyons nous-mêmes hosteurs de nos propres données. Et en fait, il me dit que là, il y a des sujets qui sont beaucoup plus compliqués à traiter. Déjà, traiter le vivant. Et là, c'est un sujet avec des codes qui nous sont propres et propres à chacun d'entre nous. Et puis aussi les problématiques éthiques qui sont derrière. Bien qu'on ait vu l'année dernière, Grow My Own Boat, si je ne me trompe pas, et qui était une startup spécialisée dans le stockage de données dans de l'ADN de plantes. Et donc, ils utilisaient la végétation pour stocker les plantes. Pareil, c'était quelques kilo-octets. Et eux sont arrivés en disant, bah voilà, vous avez une tour, un serveur devant vous, une grande colonne. Et bah, cette colonne remplace 5000 mètres carrés de serveurs. En tout cas, c'est ce que nous souhaiterions faire d'ici à... Et ils nous ont donné une date, je crois que c'est 2027 ou 2030. Ils avaient déjà pas mal de sujets passionnants, fantastiques, vrai game changer s'ils arrivent à lever tous leurs verrous. Et on voit bien que sur ces sujets d'empreinte carbone, il y a l'hébergement, il y a énormément de choses passionnantes. Voilà, biomémorie, en tout cas, ça fait partie de ceux qui m'ont bien plu. Allez, Bruno, quelle startup t'a séduit?
Mathieu, si tu me permets de faire un coup de pouce sur ton coup de cœur. Moi, j'ai vu ce qu'ils ont fait et je trouve ça fascinant. Mais là, le défi, ça va être de combattre le lobby de l'industrie qui est présentement roi dans le stockage des données. Parce que tu le dis, tu sais, c'est une technologie de rupture. Tu amènes ça, ça va changer le parc. Et imagine les data centers dans un contexte où maintenant ça tient. Puis on s'entend, la carte qui nous montre, elle n'a pas raison d'être. Parce que dans le fond, c'est une toute petite partie. Qui est là. Ouais. Alors, ces petits carrés-là, on pourrait en avoir une trentaine sur une carte, là, si on voulait. Et ça serait l'équivalent d'un petit data center là, qui se fait. Donc, donc, je trouvais ça fascinant, puis merci. Non, moi, mon coup de cœur, et je l'ai trouvé dans le kiosque de l'île de la Réunion. Ça a toujours un lien avec la France, là, mais c'était des gens de RunTech. Moi, j'ai eu un coup de cœur autant pour le produit que pour le concepteur du produit, là, Jean-Marie Casimir. Et ils sont arrivés avec la problématique de devoir répondre à un défi de l'administration publique. Ils devaient trouver un moyen d'arriver à éclairer les rues de la capitale avec un système qui était pas mal plus vert que ce qui existait présentement ou dans le passé. Et donc, les gens de RunTech sont arrivés avec l'idée de créer une structure qui ressemble, quand on passe à côté du kiosque, on a presque l'impression de voir une sculpture qui rappelle les palmiers. Mais le génie là-dedans, c'est d'avoir donc fait des lampadaires qui éclairent les zones qu'on veut. Mais sur le dessus des lampadaires, ce sont des capteurs solaires. Il fallait y penser. C'est hyper con, mais ils sont arrivés à développer ça. Je trouve ça juste génial. Puis là, maintenant, ben, ils l'ont fait. Ça existe sur l'île de la Réunion. Et là, ils sont en train de commercialiser ailleurs. Et ça, j'avoue que moi, ça a été mon coup de cœur parce que c'est quelque chose de simple, mais qui pourrait faire une différence à la grandeur de la planète.
Et ça, c'est ce côté de passage à l'échelle. Hein. C'est notamment de dire qu'il y a des projets où on voit, c'est vraiment de la recherche. Il y en a, c'est de l'innovation. Il y en a, c'est penser tout de suite presque pour passer à l'échelle tellement c'est simple. Mais c'est le génie de la simplicité qui fait que généralement, les choses tournent. Le temps file. Et donc, on va essayer de tenir les 30 minutes. Il ne nous en reste pas beaucoup. Et donc, ce que je vous invite, c'est vraiment deux autres startups coup de cœur, pitché en moins d'une minute. Lionel.
Oh là, pitch en moins d'une minute. Eh bien, écoute, c'est très, très simple. Allez. Moi, je vais m'arrêter sur une startup française qui s'appelle Everdian, Et en fait, eux développent une technologie basée sur l'intelligence artificielle pour traiter des données big data en temps réel. Très intéressant au niveau des entreprises parce que finalement, ils vont pouvoir anticiper tout ce qui se dit sur une entreprise en géolocalisant l'origine des messages qui sont sur l'entreprise. Ça peut être détecter un bad buzz pour qu'on détecte un bad buzz, détecter des relations avec le client qui se tend parce qu'il y a eu un dispositif dans une des régions où l'entreprise opère qui a mal fonctionné, etc. Très, très bon. Et peut-être que c'est le Social Media Manager 3.0, etc. Everdian. Donc ça, c'était pas mal. Et c'était pas mal sur le côté traitement de l'intelligence artificielle. Si tu veux que j'enchaîne tout de suite, hop, eh bien, je vais enchaîner tout de suite sur une startup dont on a déjà beaucoup parlé, mais qui s'appelle Biotheos et qui a montré qu'avec des algues, on pouvait nourrir des algues de notre pollution intérieure, que ce soit dans des espaces assez grands qui accueillent du public ou des espaces plus confinés qui sont des espaces de bureaux. Vous nourrissez les algues de ces polluants, que ce soit des particules fines ou autres polluants. Mais une fois que ces algues sont bien repues, bien nourries, bien grasses, eh bien, elles vous servent d'engrais.
Comme quoi, énormément de choses. Biotheos, c'était sympa parce que cette colonne verte a été vraiment très, très sympa à mettre dans son salon, mais pas que. Mais pas que. Bruno, deux petites découvertes qui ont attiré ton attention.
Oui, QCBOC, une Sénégalaise qui est fort intéressante à regarder aller parce qu'eux vont faire la différence dans le domaine de l'art en Afrique. Leur idée, c'est de représenter des artistes africains qui vendent par Internet. Et donc, ce qu'on propose aux acheteurs, c'est d'acheter une réplique numérique de l'œuvre. Et une fois que ça a été acheté, qu'il a reçu la réplique numérique, ben, il peut recevoir l'œuvre par la suite. Et comme ça, de l'autre côté, ça assure à l'artiste africain, d'une part, le paiement, mais aussi la traçabilité de ses œuvres. Parce que souvent, ça se perd dans le paysage. Oui. Ça, je trouve ça intéressant. L'autre truc, je reste en Afrique, Koliba, ça vient de la Côte d'Ivoire. Ils sont là depuis 2-3 ans, ces gens-là. Ça a commencé un petit peu avant la pandémie, sauf que là, ils sont vraiment là. Eux, ils sont dans le domaine de la gestion des déchets, évidemment dans une démarche environnementale, mais il y a l'aspect technologique qui est derrière tout ça pour s'assurer de gérer. Et puis même, ils ont été habiles parce qu'ils ont développé des partenariats avec des gros joueurs de l'économie consommateur sur le marché ivoirien. Puis là, ça commence à aller un petit peu partout en Afrique pour donner de la valeur ajoutée aux gens qui décident de prendre le pari du recyclage. Et ça, je trouve ça habile et j'ai l'impression que ça va percoler ailleurs dans le monde. Koliba.
Très bien. On voit qu'effectivement, le stand sur l'Afrique était plein de pépites. Et ça, c'est quelque chose qui était super sympa. Et bien, moi, je vais rester dans les choses un peu deep tech. Je suis désolé. Enfin, quoique, allez. Bon, forcément, mes petits chouchous depuis des années, c'est pas deep tech, mais UK Robotics, UK Engineering, nos amis japonais qui sont finalement une start-up dédiée aux palliatifs médicamenteux. Au lieu de vous bourrer d'antidépresseurs, vous allez serrer dans vos bras le foufouli. C'était marrant. Mais j'adore parce que ça recrée une petite vibration sur le ventre et vous repartez de là au bout de 10 minutes heureux. Et on voit bien que Vivatech devrait même être remboursé par la sécurité sociale. Des fois, ça donne tellement d'énergie. Et donc, en fait, UK Engineering, avec ce robot d'ailleurs, hein, sur on met aussi cette peluche, on met le doigt dans la bouche de la peluche, et ça vient recréer une espèce de succion, comme si le chat que vous aviez chez vous vous léchait le doigt et vous mettait dans un état de déstressage absolu. J'ai trouvé ça mignon, comme à chaque fois au CES. C'était sympa, parce qu'ils étaient là cette année. Et enfin, un dernier, alors c'est peut-être ce que je considère être un game changer très certainement de la détection et de la compréhension de l'environnement, c'est Steerlight. Ils étaient sur le stand du CEA, et c'est cette nouvelle génération de LIDAR miniature, tout petit, moins d'un centimètre, qui a une perception ultra précise de l'environnement. Je sais que Lionel, tu as beaucoup discuté avec eux aussi, et ça fait partie de ceux qui, par l'invisibilité et la capacité d'intégration extrêmement facile, vont très certainement être des game changers à terme dans la capacité d'offrir des services de voitures autonomes ou de robotique ou autres, beaucoup moins onéreux, beaucoup moins chers. Et ça, c'était Made in CEA. On aimerait que le CEA envoie plus de startups à Vivatech, hein, autant qu'au CES, on leur a dit. Mais CEA plus CNRS, Dieu sait qu'on aurait pu déjà y passer de bonnes journées d'affilée. Bon, j'ai pas parlé de quelques démos et ma chouchoute, c'était Alan. sur le centre de Capgemini, où c'était cette IA générative, ça m'en fera une troisième, qui présentait la capacité du code à être interprété par l'IA, à le générer en graphe, à générer la documentation ensuite associée, et surtout à pouvoir interagir avec un bot sur le code pour savoir si on avait une modification de fonction à faire, que ça nous donne tout de suite l'impact sur le code. Je trouvais ça ultra intéressant, et Dieu sait que la présentation était séduisante.
Voilà. Mais, Mathieu, si tu me permets, parce que toi, tu es en plein conflit d'intérêts, mais moi, je peux le faire.
Ouais.
Le kiosque de Capgemini, particulièrement celui de Vivatech dans cette édition-là, on pourrait y passer au moins 2 heures pour rencontrer les gens qui travaillent sur l'innovation. Mm. Je trouve ça fascinant. Chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression d'avoir un mini CES qui est là,
qui
tient dans un kiosque. Et, mais évidemment, bon, toi, tu es en plein conflit d'intérêts, alors c'est
bah, c'est bien que tu le dises, mais je n'ai pas payé Bruno pour qu'il dise.
Non, ça coûterait trop cher. Mais moi, je veux le dire, je suis toujours ébahi de par le savoir-faire des ingénieurs qui travaillent autour de cet univers-là. Alors, chapeau, c'est bien fait.
On a passé un super moment et c'est vrai qu'en plus, les ingés et les chercheurs qui présentent leurs projets, c'est un vrai exercice de style que de pitcher 500 fois par jour leur sujet. Les profs, ils ont survécu. Donc, c'est plutôt c'est que tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'était un moment super sympa. Et on voit chacun son propre Vivatech, tout comme on voit chacun son propre CES, parce qu'on a tous une lecture différente de ce salon en fonction des gens qu'on y rencontre et de ce que l'on vient y faire. C'est ce qui fait que Bruno, nous t'attendons mais une semaine la semaine prochaine, comme ça nous pourrons à loisir assurer quelques conférences.
On commence avec un 48 heures et puis après.
C'est déjà bien. Ça roule. Bon, voilà, c'était cette édition sur Innovation and Prospective Talk spéciale Vivatech, sur lequel nous sommes revenus avec Lionel Tardy et Bruno Guglielminetti, notre ami et expert analyste canadien de la technologie, que vous pouvez retrouver sur moncarnet.com. Et nous sommes ravis d'avoir partagé ce moment de débrief à froid autour de Vivatech. Vous voyez que l'énergie est encore là. Nous avons hâte maintenant d'être à l'IFA de Berlin, qui sera notre premier prochain gros salon. En attendant, on vous invite à vous rendre sur Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify pour vous abonner, partager la bonne parole. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures autour de la tech et de l'innovation. Merci à vous deux et à très vite.